France Inter.
Certains m'ont dit demain tu vas changer de vie. Moi j'en suis pas complètement convaincu. J'ai un côté moine soldat, donc je fais le boulot pour lequel les gens m'ont fait confiance.
C'était il y a 10 ans, en avril 2015, Sébastien Lecornu, il a 28 ans. Et sur France 3, l'édition Haute-Normandie du 12-13, le jeune maire de Vernon vient d'être élu président du conseil départemental. Déjà, il revendique d'être un moine-soldat. Il ne s'agissait donc pas que d'un élément de langage réservé aux 20h de France 2 cette semaine. Alors celui qui a toujours été un jeune vieux de la politique se retrouve ce matin un ancien nouveau Premier ministre. Sa mission était finie. Mais bon, voici le moine-soldat fraîchement renommé qui prend aussi des airs de lapin blanc. Le lapin d'Alice, vous savez, engagé dans une course contre la montre, pas encore parti, déjà en retard, avec un projet de budget sous le bras, un PLF mutant, entre la carte blanche que lui donne Emmanuel Macron et les lignes rouges que lui tracent les anciens alliés et les oppositions. Tic-tac, l'horloge tourne, le texte qui dévoile les prévisions de croissance, de dépenses et de recettes et donc in fine l'objectif de déficit de la nation. Ce texte doit être présenté ce lundi en Conseil des ministres d'un gouvernement qui n'existe pas encore. Ainsi, le Parlement aurait bien les 70 jours obligatoires pour l'amender, sinon au 31 décembre, eh bien, il restera les ordonnances ou la loi spéciale pour faire passer le PLF. En attendant, eh bien, la charge de la dette continue de s'alourdir. Les consommateurs d'épargner au lieu de dépenser, les chefs d'entreprise qui louaient la politique de l'offre, de dire de plus en plus ouvertement leur dépit et leur défiance. Bref, de l'autre côté du miroir, l'économie continue de mal tourner.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie avec vous et nous, c'est-à-dire Valentin Pérez, Céline Hila, Étienne Bertin, Anne-Cécile Perrin, au mix Rémi Sistiaga et puis à la console, Loïs Moreau. L'invité du Magico, c'est le président du directoire d'Euronext. Euronext, c'est la société qui gère 7 grandes places boursières européennes, Paris, Amsterdam, Milan entre autres, et bientôt 8 avec Athènes. Quel est le degré de tolérance des marchés financiers, c'est-à-dire des investisseurs, face à l'instabilité politique? Que risquons-nous à tourner ainsi sans fin au fond de l'impasse politique? Entretien vers 9h40. De l'argent qui pourrait s'investir dans l'économie réelle, il y en a en réalité. Le taux d'épargne des Français est au plus haut et de plus en plus on voit fleurir en ligne des solutions de placement, des plateformes, des youtubeurs. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Vioboulot est avec nous, fidèle au rendez-vous. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous répondez à notre auditrice Emma, c'est une jeune femme Emma.
Oui, peut-on passer son permis pour 0 € grâce à son compte personnel de formation? C'est la question d'Emma et j'y réponds tout à l'heure.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre votre réponse. On vous retrouve tout à l'heure Sandrine Foulon, c'est juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat dont n'arrête pas l'écho ce samedi avec Anne-Laure Delatte. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous êtes économiste directrice de recherche au CNRS. Et salut Marc Vigneault.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions budgétaires chez nos confrères du quotidien L'Opinion. Alors finalement, rien n'a changé depuis samedi dernier. Sébastien Lecornu est à Matignon. Et la question des retraites, ben, elle va continuer de cristalliser le débat. D'un point de vue économique, que faut-il faire de la réforme Borne? C'est parti.
Cela fait maintenant 3 ans que nous demandons l'abrogation de la réforme des retraites qui a été passée en force contre l'immense majorité du peuple français, contre l'ensemble des syndicats, y compris contre l'Assemblée nationale puisqu'elle a dû passer par 49-3.
Mathilde Panot, députée, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
Et ce que nous disons, c'est que la suspension, qui voudrait dire, pour que tout le monde comprenne, la retraite à 63 ans, n'est absolument pas envisageable. Nous voulons son abrogation.
Je n'ai pas dit qu'il fallait bazarder la réforme des retraites.
Elisabeth Borne, ancienne première ministre.
J'ai dit très précisément qu'il fallait examiner les modalités et les conséquences concrètes d'une suspension de la réforme. Et si c'est la seule voie pour pouvoir sortir de la crise actuelle, je pense que ça vaut la peine de poser cette question.
Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori
abrogé.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Si c'est acheter de la stabilité au prix d'un alourdissement considérable de l'endettement du pays et de la remise en cause de sa croissance et de son pouvoir d'achat pour acheter 2 mois, 3 mois de stabilité, je dis non.
La CFDT, elle veut un retour du débat autour de la question de la retraite à la carte. La retraite par points qui a été engagée en 2019, stoppée en 2020.
Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT.
C'est un régime universel qui permet notamment aux polypensionnés, ceux qui font des allers-retours entre le public et le privé, d'avoir une équité de traitement et ça permet véritablement de prendre en compte les situations de travail.
Modifier la réforme des retraites, ça va coûter des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027.
Roland Lescure, ministre démissionnaire de l'économie.
Donc ce que je vous dis, c'est que moi je suis prêt à faire des concessions, ce que je vous dis aussi, c'est qu'elles ont tout un prix et qu'il va falloir les financer.
Marc Vignoine, Laure Delatte pour faire le débat du Mag'Écho. Alors avant de démarrer, d'ouvrir vraiment le dossier des retraites, je voudrais juste un mot de commentaire économico-politique ou politico-économique sur la situation ce matin, Anne-Laure.
Bon, moi j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte, vous savez, le film américain avec Bill Murray où on vit tous les jours la même chose. Et sinon, non, d'un point de vue économique, ce qui m'inquiète, c'est que pendant ce temps-là, les intérêts continuent à courir, que les intérêts sont en train d'augmenter, que c'est une charge à financer par l'État. Et pendant ce temps-là, on ne finance pas les hôpitaux, l'éducation, ce qu'on devrait financer en priorité.
Il faut en sortir. Marc Vigneault ?
Bah oui, c'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'on a l'impression qu'on veut régler des questions qui seront réglées par la présidentielle. Et donc là, on met un peu l'économie à l'arrêt pour, à mon avis, de relativement de mauvaises raisons. Et donc ça, c'est assez délétère pour le pays.
Alors, ce dossier retraite, justement, ça sera un des grands débats de la présidentielle, mais en effet, il est déjà en avance sur la table, puisqu'il y a cet arbitrage posé, un geste sur les retraites contre une non-censure, c'est notamment ce que demandent les socialistes. Est-ce que ça vaut le coup économiquement? J'imagine que vous avez entendu, on vient de l'entendre tous ensemble, Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui dit « ça vaut pas le coup ». Marc Vigneault, est-ce que ça vaut le coup?
Alors, on nous dit, en gros, il y a un coût de l'incertitude, et ce coût de l'incertitude, c'est 15 milliards d'euros sur la base d'un calcul un peu ancien de l'OFCE, et donc ça ne vaut pas le coup, puisque le coût... Enfin, c'est 15
milliards... Le coût de l'incertitude, c'est ce que nous a coûté la crise depuis la dissolution. Hein.
Voilà.
C'est ça, les 15 milliards.
Et on compare les 15 milliards à ce que coûterait une pause de la réforme des retraites avec reprise derrière, hein, je précise bien. Bon, 3 milliards d'euros à l'horizon 2027, sauf que ces chiffres-là ne sont pas du tout comparables. Ce qu'il faut regarder, c'est si vous suspendez, vous arrêtez définitivement la réforme des retraites, ça vous coûte une quinzaine de milliards, ça dépend des paramètres précis, mais une quinzaine de milliards à l'horizon 2035, et c'est du récurrent, et c'est des recettes budgétaires,
vous voulez dire,
c'est
attendez,
pas
vous
juste
allez trop vite. Ça nous coûte 15 milliards par an, grosso modo, c'est ça à la louche, par an? C'est
oui,
ça
par
vous
an.
Dites
oui,
okay.
Par an. Et sachant qu'il faut trouver 120 milliards d'euros d'ici quelques années, rien que pour stopper l'augmentation de la dette, qui maintenant, si on ne diminue pas le déficit, va être assez rapide. Et donc c'est ça qui est un peu qui peut inquiéter les marchés financiers. Pas demain, il n'y aura pas une crise demain. Mais si la dette continue à augmenter de 5% par an et qu'on est incapable de la stopper, bah là, ça va être terrible. Et la réforme des retraites, on sait très bien que c'est regardé par les investisseurs. C'est une réforme de long terme qui permet d'augmenter le PIB, qui permet d'augmenter les taux d'emploi, qui permet de mieux financer le modèle social de la France qui coûte très cher. Et donc si vous ne la faites pas, bah, tout le monde va se poser la question de savoir comment on finance ce modèle social.
Anne-Laure Delatte, votre regard sur cet arbitrage?
Alors,
est-ce que ça vaut le coup?
Je suis d'accord avec vous qu'on est en train d'avoir un débat sur le régime économique, en fait sur le modèle social français. Est-ce qu'on devrait l'avoir pendant les présidentielles ou est-ce que le vote d'un budget peut être l'occasion au Parlement d'une discussion parlementaire. En fait, c'est ça la question qui se pose depuis 2 ans. Mais c'est vrai que pour prendre un peu de champ, on a 2 combats économiques qui ont été menés en parallèle par la gauche et pas seulement le PS. Vous avez eu la taxe Zucman et les retraites. Et vraiment, ce sont 2 sujets qui sont montés en force dans le débat. Et face à ça, en fait, vous avez donc... Enfin, ce modèle social, ce débat-là, il y a 2 récits. Il y en a un, c'est des efforts sont demandés. Bayrou nous l'a dit, enfin, l'ex-premier ministre François Bayrou nous l'a dit de façon plutôt brutale, il va falloir se serrer la ceinture, notre régime social n'est pas soutenable, on ne peut pas se le permettre. C'est ça qu'on nous dit. Et à gauche, en face, on vous dit, En fait, on tient, il y a une partie de la population, voire une grande partie de la population, qui tient à ce régime social. On n'est pas prêt à baisser le niveau de vie, notre niveau de vie quand on part à la retraite. Et il se trouve qu'on a un taux de remplacement qui est plutôt bon en France. Et en fait, c'est
alors
un
le
choix
taux de remplacement,
collectif.
C'est la différence entre le salaire qu'on touche pendant sa vie active et le traitement qu'on va.
Mais ça tombe bien. Ce genre de réforme, ça fait augmenter les taux de remplacement. Ça fait augmenter les pensions. Pour ma génération, c'est l'étude d'impact et que personne n'a contesté. Ça fait augmenter les pensions et les plus petites pensions pour les gens de la génération de 1984.
Alors moi, ce que je
préfère là-dessus. Hein.
Ouais.
Et d'ailleurs, à long terme, elle coûte cette réforme.
Peut-être est le plus parlant pour les gens, c'est le rapport entre ce que vous gagnez quand vous êtes retraité et ce que vous gagnez quand vous êtes actif. Il se trouve que toutes les réformes qui ont été mises en place ont fait baisser ce ratio. La France était dans une situation un peu particulière il y a une dizaine d'années. Les retraités étaient presque plus riches quand on était retraité que quand on était actif. Depuis 2018, un petit peu moins de 10 ans, ça n'a pas arrêté de baisser, mais on est quand même aujourd'hui à 92%. Si vous regardez le revenu médian des retraités par rapport à celui des actifs. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est ça, pour moi, le débat qui se pose. Et on peut repartir dans le débat de 2023, et on va probablement le faire, ça va devenir très technique, etc.
Est-ce qu'on est destiné à prolonger notre vie active et donc à repousser l'âge légal de départ? C'est ça le départ de 2023.
Je veux juste finir
là-dessus,
c'est que la question... Voilà, c'est ça. Et ce que vous disent les Français, c'est en réalité, on tient à notre modèle social. On n'a pas envie de dégrader notre vie une fois arrivé à la retraite. De la même façon qu'on n'a pas envie de dégrader notre santé. On a une durée de vie en bonne santé qui est bien en France. Et donc, il va falloir financer ce modèle social.
Mais très bien, mais c'est là quel grand malentendu. Au contraire, pour éviter... ce qui est programmé par les réformes précédentes avant la réforme Borne, c'est-à-dire la dégradation du niveau de pension par rapport au niveau de vie des actifs, puisque les retraites sont indexées, je le rappelle, sur l'inflation et non pas sur les salaires. Et évidemment, on espère que les salaires progressent plus vite que l'inflation. Il faut faire des réformes qui permettent de contrecarrer cette courbe et donc d'avoir plus de rentrées, d'avoir des taux d'emploi des seniors plus importants. On est pratiquement parmi les pays d'Europe qui avons les taux d'emploi des seniors les plus faibles, parce qu'on n'a pas relever assez rapidement l'âge de départ à la retraite. Il y a des générations qui sont parties à la retraite après la réforme de François Mitterrand. On a couru après le passage à 60 ans avec un certain nombre de règles pour rattraper, et on a fait justement la réforme Balladur qui a indexé les retraites sur l'inflation pour maîtriser les dépenses de retraite. Et donc, si vous ne faites pas d'autres réformes, c'est exactement ce qui va se produire. Donc, c'est ça le grand malentendu. Au contraire, pour financer les retraites et la santé, puisque je vous rappelle quand on travaille plus longtemps, on finance la santé. Donc ça redresse les comptes de la santé de faire une réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps, quelles que soient les modalités.
Alors, très bien. Et les comptes de la santé, Marc, les comptes de l'assurance maladie sont encore plus dégradés que ceux de la retraite. Anne-Laure, peut-être qu'on finit là-dessus parce que ça pourrait durer des heures. Et moi, je vais vous faire revenir sur les mots, là. Suspension, décalage, c'est les mots de l'actu du jour. Mais,
sur le taux d'emploi, vraiment très rapide.
C'est quoi les autres sources pour abonder les autres sources de financement pour notre modèle social? Marc dit, il n'y a pas d'autre choix, maintenant il faut travailler plus longtemps. Vous, vous dites quoi?
En fait, tout simplement, il faut le financer par soit une augmentation d'un point des cotisations sociales, c'est ce qui est calculé en 2032. Si ça nous coûterait un point de cotisation sociale en plus, si on voulait suspendre la réforme aujourd'hui. Ce point
de cotisation sociale, c'est quoi? C'est 2 euros par mois? On ne sait pas. Ouais, okay. Bon, je vous pose une colle.
Vous me collez
c'est
une colle.
Pas, c'est quelques euros, on ne sait pas trop ce que
mais c'est 0,15 points par an, donc c'est pas, on n'est pas dans un truc cataclysmique. En fait, je crois que mon travail, moi, d'économiste, c'est de vous dire, est-ce que c'est faisable? Après, on est dans un système démocratique et on va décider si on préfère ça ou pas.
Mais c'est juste un sur le taux d'emploi. Là, vous ne parlez que du système des retraites. C'est tout le modèle social qu'il faut financer.
Là, vous l'avez,
votre point de cotisation, ça ne finance que les retraites et ça ne comble que le déficit des retraites.
Marc, vous l'avez dit. Anne-Laure, vous finissez et ensuite je vous emmène sur c'est quoi une suspension, c'est quoi un décalage, comme a dit Emmanuel Macron.
Non, mais c'est simplement que sur le taux d'emploi, c'est vraiment l'argument qu'on entend en permanence. Si vous, en fait, si vous prolongez la durée de vie, la durée de carrière des gens, alors vous allez avoir plus de taux d'emploi. Le problème, c'est qu'une grande partie des gens sont à la, au chômage à partir de 55 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens qui ne sont pas au chômage sont prolongés. D'accord ? Et c'est vrai que si vous êtes en emploi à 60 ans, votre patron va normalement vous prolonger jusqu'à 62. Mais si vous êtes au chômage, vous restez au chômage, en réalité. Donc, l'augmentation du taux d'emploi qu'on a observé ces dernières années, c'est uniquement les gens qui sont restés dans à leur poste du fait de l'augmentation du temps de...
Et sinon, les autres vont être au chômage.
Donc, c'est marche ou crève, en fait.
C'est 70% d'une classe d'âge, en fait. Ça fait augmenter vraiment les taux d'emploi, on l'a vu. Donc, on les voit sans arrêt augmenter, les taux d'emploi. Ils augmentent depuis la réforme Bock.
Ils ont décalé de 2 ans.
Ça s'est décalé de 2 ans, exactement parallèlement à l'âge de départ à la retraite.
Il nous reste 1 minute 30 maintenant pour parler des mots du jour. Là, on nous parle d'une suspension de la réforme des retraites. On entend que Emmanuel Macron, c'est rapporté par Marine Tondelier après sa rencontre hier, a évoqué un décalage dans le temps de la mesure d'âge. À qui je donne la parole? Alors,
j'ai 30 secondes et je laisse Marc.
Moi, de quoi
je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que si on suspend, ça veut dire qu'on s'arrête aujourd'hui à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres de cotisation. Ça doit être inscrit dans la loi et financé si on veut que si on veut réfléchir à une autre réforme plus tard et si ça n'est pas simplement un décalage. Très concrètement, ça veut dire que ça peut impacter des gens tout de suite. Dès 2026, les gens qui sont nés en janvier 64, ils pourraient partir en octobre 2026 plutôt qu'en janvier 2027. Et il y a entre 700 et 800 000 personnes qui seraient affectées.
C'est très concret.
On aurait fait gagner 3 mois de retraite et on aurait menacé une réforme très importante qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas la réforme injuste qu'on a décrite parce que les paramètres du système de retraite sont tellement complexes qu'on ne comprend plus rien. Si vous allongez la durée de cotisation, en fait, ceux qui ont des carrières hachées, qui n'arrivent pas à valider toute leur carrière seront beaucoup plus touchés que les gens dans cette réforme.
C'est bien pour ça qu'il
faut
arrêter.
Les gens de cette réforme qui sont visés, c'est les gens qui ont commencé à travailler tôt, certes qui auraient validé leur carrière avant leurs 64 ans, mais ce ne sont pas les carrières hachées, ce ne sont pas forcément les carrières pénibles, et on a donné des avantages à des carrières longues, le dispositif carrière longue, qui à la fin se retrouve parmi les retraites les plus élevées et qui ont des carrières par définition linéaires et donc qui ne sont pas parmi les plus défavorisées.
Mais on est d'accord et vous avez un argument, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur l'histoire des carrières longues, là, le point, c'est juste de stopper la dégradation du régime des retraites et du régime social français en général.
Allez,
si on peut
secondes.
Revenir 10 secondes sur ce que veut dire une suspension, normalement, une suspension, ça veut dire qu'à un moment, vous reprenez la réforme. Et le président de la République, c'est ça qu'il veut faire. Il veut reprendre la réforme.
Ah oui.
Et lui, le Parti Socialiste, dit au contraire, nous, on veut stopper la réforme à un moment T.
On a bien compris que le président de la République...
Et moi, je veux stopper ce débat. Anne-Laure Delatte et Marc Vigneault, parce qu'on a un timing à respecter. Les merveilleux débatteurs dont n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
industrializieron el
unemployment and lower job
creation.
Bah oui, c'est l'heure de l'écho en VO. Ce matin, nous partons voir comment l'économie tourne de l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes au Maroc.
بلادنا والحمد لله كما نعمل على استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بناء أبداء المغرب الموحد في مصرف الحقوق السياسة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
Dieu soit loué, nous attachons à ce que les fruits de la croissance profitent à tous, à ce que les enfants du Maroc jouissent à égalité des droits politiques, économiques et sociaux. C'était hier, en fin d'après-midi à Rabat, le discours annuel du roi Mohamed VI. C'était une parole très attendue par les jeunes qui manifestent depuis 2 semaines. Bonjour Cédric Calfi.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter au Maroc. Alors un meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, voilà pourquoi une bonne partie de la génération Z se mobilise chez vous. Cédric, est-ce que Mohamed VI a trouvé des mots pour apaiser cette fièvre sociale ?
Alors, c'est difficile à dire pour le moment. Hein. La Gen Z avait décidé avant-hier sur Discord de ne pas manifester pour montrer son attachement justement au roi. Et puis, comme vous le disiez, hein, ce discours était très attendu, mais c'est un discours devant le Parlement. C'est un discours d'ouverture de session parlementaire. C'est pas un discours devant la nation. Alors, Mohamed VI a rappelé leurs responsabilités aux parlementaires et au gouvernement d'ailleurs, mais aussi ses orientations, puisque c'est à ça qu'il sert ce discours. Ses orientations, justement, bah, c'est le développement du pays, comme en parlait votre extrait, les autoroutes, les TGV, les stades, les ports, et puis aussi les grandes réformes sociales en cours, l'assurance chômage, les aides sociales pour les plus démunis, la généralisation de l'assurance maladie et, grande nouveauté, une carte vitale qui devrait arriver prochainement. L'objectif, c'est la lutte contre les inégalités sociales, mais aussi les inégalités territoriales, insiste le roi. Faut maintenant que ça bouge, mais la volonté, eh bien, elle se heurte à la réalité de la corruption du quotidien.
Oui, la corruption, c'est dit, qui gangrène les services publics. C'est justement ça que ne tolèrent plus les jeunes.
Oui, c'est le nœud du problème. La corruption, elle est partout et les services publics sont en décrépitude à cause de ça. L'hôpital d'Agadir, par exemple, a bien du budget, mais le problème, c'est les médecins et les infirmiers fantômes, le matériel qui disparaît. Et puis même si vous voulez rentrer aux urgences, il faut glisser un petit billet à l'agent de sécurité. Et pour vous dire même mieux, le nouveau CHU flambant neuf d'Agadir, il est là, il est prêt, il est vide, il attend toujours de venir remplacer ce fameux hôpital Hassan II où ont lieu 8 décès de femmes enceintes. Donc voilà, vous voyez, Alexandra, d'une part, il y a la corruption, d'autre part, il y a les responsables politiques et les fonctionnaires qui n'assurent pas trop. Wait and see pour le moment, pour la suite du mouvement, mais connaissant la Gen Z, je pense pas qu'ils vont lâcher l'affaire aussi facilement.
C'est Dick Kelfi avec nous en direct de Casablanca. À 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité dont n'arrête pas l'écho, c'est le président du directoire d'Euronext, la société qui gère plusieurs grandes bourses en Europe, à commencer par Paris. Quel est le regard des marchés financiers sur la France ? On posera la question à Stéphane Boujna, qui revient de New York. Mais d'abord, parlons du bad land des Français, un bad land qui devient de plus en plus lourd. Avant le Covid, le taux d'épargne était environ de 14% du revenu disponible. Aujourd'hui, les Français mettent de côté pas loin de 19% de leurs revenus. C'est un niveau jamais atteint depuis 40 ans hors pandémie. Mais bien sûr, derrière ce chiffre, il y a une capacité d'épargner différente, selon chacun. Mais dans l'ensemble, tous les Français qui le peuvent deviennent plus cigales que fourmis, et d'abord les plus de 65 ans et les plus aisés. Qu'est-ce que ça signifie pour le pays ? Peut-on faire de cette épargne un moteur de l'économie ? Cette idée, vous le savez bien, elle revient régulièrement, tout en satisfaisant le besoin d'être rassuré des Français. En tout cas, c'est la promesse des nouveaux acteurs que l'on voit émerger en ligne et qui veulent parler à tous, les retraités comme les jeunes actifs favorisés. Écoutez le reportage d'Anaël Verzo qui débute avec ce témoignage de deux trentenaires. Ils sont cadres dans une start-up proche de la place de la Bastille à Paris.
Moi, je m'appelle Souriana, j'ai tout juste 30 ans. Je travaille chez Moka, donc une start-up dans la santé mentale en entreprise, qui est un sujet vachement important quand même. Je suis actuellement propriétaire de mon logement principal. Donc déjà, c'était mon premier type d'investissement, je dirais, à long terme, en dehors d'un livret A assez classique. Et puis après, j'ai décidé de me mettre en relation avec une conseillère en patrimoine. On a fait des placements assez variés dans plusieurs types d'entreprises. Mais en fait, je place 200 euros par mois depuis 3 ans. C'est une assurance vie. Je voulais pas mettre de l'argent chez n'importe qui. Par exemple, Amazon, que j'ai refusé quand on me l'a proposé. Je préférais avoir des sociétés qui étaient, par exemple, dans l'énergie verte, ce genre de choses. Ça me tenait à cœur.
Et quel est l'intérêt pour vous de placer cet argent ?
On ne sait pas ce qui peut arriver, ne serait-ce que pour la retraite. C'est dans longtemps, mais quand on y pense, ça peut quand même être bien de commencer dès maintenant.
Je m'appelle Arthur, j'ai 36 ans. J'ai fait pas mal d'investissements sur de nombreux supports différents. Peut-être quelque chose comme 250 000 euros, un peu plus. J'ai un plan d'épargne retraite, j'ai un PEA.
Plan d'épargne en action.
Action.
Et vous avez tout sur une seule appli ou comment ça se passe ? Non. Donc là, vous avez allumé votre téléphone, ouvert une appli.
Je vais montrer les crypto-monnaies.
Là, on voit la courbe qui est ascendante. Hein. Ça a monté.
Sur 24 heures, donc en fait, on voit qu'il y a une énorme volatilité. Mais dans mon cas, j'ai acheté il y a 8 ans. Ça fait un peu rêver, mais du coup, j'avais investi 4 000 $. Et là, je suis à 28 000. C'est chouette. C'est rigolo.
Est-ce que vous vous connectez tous les jours ?
En ce moment, oui. Même plusieurs fois par jour. Ouais, je regarde plusieurs fois par jour. Et c'est un côté assez grisant. Alors, je ne suis pas le plus vertueux. Là, typiquement, je copie un trader, en l'occurrence, qui a beaucoup d'actions américaines, qui sont les GAFA++, quoi. En termes de rendement, c'est assez imbattable.
Et comment vous vous êtes formé ? Est-ce que vos parents sont de grands investisseurs comme vous ou pas du tout ?
Mes parents sont à la retraite. Le sujet de l'argent est un sujet assez tabou, donc on n'en a jamais trop parlé. J'ai jamais été tellement formé à ça. Je sais qu'ils ont des assurances vie, mais très peu risquées. Et donc avec des placements, avec des frais monstrueux, etc. Donc, la dernière fois, j'ai décortiqué le truc de mon père et j'étais « Non, mais c'est pas possible. Tu payes tellement de frais, c'est dommage, quoi. »
Et alors, vous n'avez pas de conseiller financier ? Vous faites tout seul ?
Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec la vulgarisation qu'on peut trouver sur Internet, on peut monter en compétences. Les applications qu'on regarde là, elles sont extrêmement simples à utiliser. Je préfère ne pas payer quelqu'un qui va s'en occuper à ma place, alors que je peux le faire et que ça m'intéresse et que je pense que je peux me débrouiller bien, quoi.
Selon l'Autorité des marchés financiers, 1 million de jeunes Français ont commencé à investir en 2020. Aujourd'hui, 40% des 18-24 ans affirment avoir déjà suivi des conseils financiers obtenus sur les réseaux sociaux ou sur Internet.
Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.
Je vais te partager les 7 règles d'or qui permettront de maximiser tes chances de gain en bourse et surtout d'éviter de perdre de l'argent.
Qu'est-ce qu'il faut choisir entre le compte titre et l'assurance vie ? Je vais te le dire tout de suite.
Totalement débutant, il va falloir que tu te diriges vers les business en ligne si tu veux avoir de gros résultats.
En ligne, des youtubeurs et des tiktokers qui se présentent comme des experts rendent l'expérience ludique. Pour donner accès à des tuyaux et à des outils dits pédagogiques, ils se font rémunérer, parfois plusieurs milliers d'euros. En parallèle, des plateformes se sont aussi développées. Elles proposent de piloter elles-mêmes le portefeuille de leurs clients. En France, le leader s'appelle Youmoney. Je me rends dans les locaux de l'entreprise, rue Aubert, près de l'Opéra Garnier, à Paris.
Je suis Sébastien Malano, je suis le fondateur de Youmoney, 90 salariés. Plus de 80 000 clients, plus de 2 milliards d'euros d'épargne confiés par ses clients. Alors, la moyenne d'âge, elle est 36 ans. On a deux grands profils de clients. On a les plus jeunes, c'est-à-dire les jeunes professionnels qui commencent à pouvoir mettre de côté et qui ouvrent leur première assurance vie ou leur premier plan d'épargne en action avec nous dans une logique de pédagogie. C'est une génération qui est assez angoissée, qui sent qu'elle va être moins protégée sur la retraite, sur un certain nombre d'éléments. Donc elle sait qu'elle doit prendre en main son épargne. Et puis en plus, c'est une génération qui est assez informée. Elle va directement soit sur Internet, soit sur les réseaux pour prendre connaissance et conscience de ce qu'on peut faire avec son épargne. Et puis à côté, on a des cadres à quinca. Je dirais que c'est les déçus de la banque. Ils ont essayé d'investir un petit peu avec leur banquier. Finalement, ils ont l'impression que ça leur apporte pas beaucoup. Et ils viennent chez nous justement pour venir challenger le banquier en disant bah, « L'épargne en ligne, ça fait 10 ans, je regarde les résultats, c'est bien meilleur que ce que je trouve dans ma banque. Pourquoi je ne mettrais pas une partie de mon épargne chez Youmoney ?»
Comptez-vous développer encore ?
Et oui, on a vocation à se développer de plus en plus vite. On a une croissance à peu près de 40% par an. Parce que si on travaille bien, la recommandation sera là comme elle l'a été par le passé. Et on continuera de faire 40% à peu près de croissance par an comme on l'a fait dans les 3 dernières années.
Si les plateformes comme Youmoney se développent, c'est que l'épargne des Français atteint un record. Plus de 6 400 milliards d'euros en 2024, soit plus du double du PIB national. Les acteurs privés ne sont d'ailleurs pas les seuls à vouloir capter cette manne. L'État aussi la convoite. Mardi, la Banque publique d'investissement lancera un nouveau livret, le Fonds Défense. Chaque citoyen pourra y placer de l'argent qui financera plusieurs centaines d'entreprises d'armement de toute taille. Ticket d'entrée 500 euros, objectif lever 450 millions d'euros. Adeline Lemaire est l'une des directrices exécutives de BPI France. Elle a piloté le projet.
C'est un fonds qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons mis en place depuis 2020 chez BPI France, où nous avons souhaité mieux connecter l'épargne des Français aux entreprises non cotées, aux start-up et principalement aux PME et aux ETI de nos territoires, de nos régions, pour que les épargnants français puissent investir dans ces entreprises. Nous avons lancé plusieurs fonds depuis 2020, celui-ci sera le cinquième. L'intérêt pour BPI, c'était plutôt sens d'objectif philosophique, en fait, hein, de résoudre ce qu'on considérait comme une double anomalie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une épargne qui est très importante en France et qui était très peu dirigée vers les entreprises non cotées. Et par ailleurs, les entreprises non cotées ont des besoins de financement en fonds propres, en quasi-fonds propres, et ont peu accès à cette ressource que peut être l'épargne des particuliers. Et donc, on a voulu utiliser notre rôle d'acteur de place pour proposer des solutions simples, accessibles, de qualité, diversifiées, qui permettent de connecter l'épargne des Français aux entreprises non cotées.
En Europe, les Français sont aujourd'hui parmi ceux qui épargnent le plus, avec les Allemands, les Autrichiens ou les Suédois. Si on se compare aux Américains, eux sont bien plus cigales que fourmis. Ils épargnent aujourd'hui entre 5 et 6% de leurs revenus, trois fois moins que nous. Qu'est-ce qui explique notre propension à mettre autant d'argent de côté? Je vais poser la question à Philippe Crevel. Il dirige le think tank Le Cercle de l'Épargne. Il est aussi l'auteur du livre « Épargner mieux pour vivre mieux ».
Depuis le confinement, depuis le Covid, le taux d'épargne est passé de moins de 15% à près de 19% du revenu disponible brut. C'est que nous avons été confrontés à une série de chocs. L'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, l'inflation, le retour de Donald Trump, et puis, depuis un an en France, une crise politique sans fin. Les Français sont anxieux, ils ont peur de l'avenir, ils se disent que la situation va être compliquée sur le plan économique, sur le plan financier, et donc par précaution, ils mettent de l'argent de côté. Et puis, 17 millions de retraités sont aujourd'hui des épargnants importants. Ils mettent de côté 25% de leurs revenus. Alors eux, ils ont également peur de l'avenir, de la baisse des pensions, et puis ils veulent préparer leur succession, ils veulent transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais par rapport à ce qui se passait dans les années 60-70, ce sont des générations qui ont une espérance de vie élevée, les baby-boomers. Et donc on va transmettre un patrimoine à des personnes qui sont en inactivité. Ça pose des questions sur un point de vue économique, parce que quand on arrive à la retraite, on n'est pas forcément dans l'idée d'avoir une gestion dynamique. On va être plutôt très prudent. Et donc il y a évidemment le risque aujourd'hui que l'épargne ne soit pas un moteur de la croissance de l'activité, mais en fait soit le symbole d'un pays de rentiers. Certains vont pouvoir vivre des rentes du patrimoine financier. Et donc ça va avoir deux conséquences. Un côté évidemment un peu sclérosant sur le capital, le patrimoine, et puis d'autre part des inégalités entre ceux qui héritent et ceux qui n'héritent pas. Et ça créera des tensions sociales dans le pays si on ne trouve pas les outils pour corriger cette situation.
L'épargne des Français, la manne que tout le monde voudrait attirer, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité dont n'arrête pas l'écho est le président du directoire d'Euronext. Bonjour et bienvenue Stéphane Boujna. Alors si je dis, pour qu'on comprenne bien ce qu'est Euronext, que vous êtes en plus petit, même si vous venez d'entrer au CAC 40, l'équivalent de Wall Street, mais pour l'Europe, ça va, vous êtes d'accord?
Oui.
C'est plutôt plaisant comme comparaison.
Oui, c'est une plaisante.
Bon, la société qui gère 7 grandes bourses européennes, Paris, Lisbonne, Milan, Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Oslo, et bientôt, on en parlera sans doute, Athènes.
Oui, pas Copenhague, mais peu importe. Mais effectivement, alors, on a une grosse activité au Danemark, dans le post-trade.
Bon. Le taux d'épargne des Français est record, 18,6%. Est-ce que vous aussi, Stéphane Boujna, vous rêvez de voir le bas de laine des Français dégonfler?
L'épargne des Français aujourd'hui, elle est, et ça a été très bien expliqué dans vos sujets précédents, c'est une épargne qui marque l'inquiétude des Français. Et c'est une épargne qui est concentrée sur les gens qui sont inactifs, vous l'avez dit. Évidemment que pour gérer les problèmes, pour financer les nouveaux problèmes européens, c'est-à-dire le réarmement, la transition climatique, la compétitivité digitale, la compétitivité industrielle, on a besoin de plus de fonds propres. Et donc évidemment, ce que nous devons faire, c'est trouver des moyens pour orienter toute cette épargne qui est disponible vers les besoins des entreprises, vers les besoins des projets qui sont des projets risqués. Aujourd'hui, une très grande partie de l'épargne des Français va vers des produits qui sont très liquides et qui sont des produits de taux d'intérêt, souvent de taux d'intérêt dans des instruments de dette souveraine. Une partie d'ailleurs de l'assurance vie est subventionnée par le contribuable pour augmenter la liquidité et le rendement des investissements dans la dette souveraine. Ce que nous devons faire, c'est essayer d'arriver à créer un système comparable à celui des États-Unis. On parle du succès des États-Unis très souvent en disant que c'est un grand pays d'innovation, d'entrepreneurs, etc. C'est vrai. Mais l'autre pilier qui est aussi important que l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est l'épargne longue. Aux États-Unis, quand vous êtes jeune, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes vieux, il faut acheter des actions quand vous êtes jeune.
Oui, c'est leur système de retraite. Oui.
En Europe, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes vieux, il suffit d'espérer que le moment venu, les gens continueront à payer des impôts et continueront à payer des charges sociales. C'est la grande différence avec les États-Unis. C'est quoi à l'arrivée ? Quand vous mettez plusieurs générations de chaque côté de l'eau, vous avez d'un côté des fleuves d'épargne longue en épargne retraite qui permettent de financer des investissements en actions, en fonds propres longs, qui vous donnent des entreprises beaucoup plus puissantes et par rapport à l'Europe. Et donc, la difficulté, c'est effectivement d'orienter cette épargne, cette épargne qui est très importante, comme on l'a dit, vers des produits qui permettent d'investir dans le très long terme.
Et vous, vous militez pour la capitalisation, c'est ça que j'entends.
Absolument. Ouais. Je milite pas. Je constate que les pays qui ont, par exemple, en Europe, on a des exemples chimiquement purs. On a un pays comme la Suède qui a un marché des entreprises technologiques le plus puissant. Il n'a aucune incitation à acheter de la dette souveraine suédoise et un tout petit incitation à acheter des produits de fonds propres
nous,
suédois.
Alors nous, dans le rapport Draghi, disait il faut faire une union du marché des capitaux. Il faut faire un grand marché unique des 27 de capitaux. Ça, c'est vraiment un serpent de mer. Ça peut améliorer les choses. Ça peut se débloquer.
Écoutez, Jacques Delors disait, quand il faisait le marché unique et quand il faisait l'euro, il disait, quand on lui expliquait toutes les difficultés, il disait, nous demandons respectueusement à ceux qui pensent que ça n'est pas possible de ne pas empêcher ceux qui essayent. Donc, oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Mais on arrive, nous, chez Euronext, avec le projet pan-européen, qui est une sorte d'Airbus de la finance, à créer une situation où bien, les gens se mettent ensemble, renoncent à faire au niveau local certaines choses, pour faire ensemble quelque chose. Je parle d'Airbus, pourquoi ? Parce que Airbus, c'est des pays qui ont renoncé à faire, dans chacun dans leur pays, un avion commercial, mais ensemble, ils ont fabriqué le concurrent mondial à Boeing. C'est un peu ce que nous faisons, nous avons créé une plateforme qui est deux fois la taille de la Bourse de Londres, en termes pour la classe action. Et on l'a fait, parce qu'en France, à Milan, à Amsterdam, demain à Athènes, etc., on a essayé de mettre en commun nos ressources.
Stéphane Boujna, on parle un peu, si vous voulez bien, de la crise politique quand même. Hein. Lundi, le CAC 40, a chuté quand Sébastien Lecornu a démissionné. Hier soir, dans le Maelstrom, Paris a encore fini en nette baisse, moins 1,53%. Alors là, Sébastien Lecornu, il est reconduit. Qu'est-ce qui va se passer à la réouverture lundi ?
Les marchés savent que la France est une des plus grosses économies de l'Union européenne. Les marchés savent que la France est une économie qui est diversifiée, qui est puissante, mais ils ont du mal à comprendre la capacité du pays à traiter ses problèmes structurels. Donc, quand il y a de la stabilité, ça se passe assez bien. Quand on ne voit pas le pilote dans l'avion, quand on ne voit pas la direction que prend cette restructuration, il y a de l'inquiétude. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez dû voir que depuis un an, les taux auxquels la France emprunte à 10 ans se sont significativement détériorés. Il y a un an, la France empruntait sur 10 ans plus cher que l'Allemagne, mais moins cher que l'Italie, moins cher que la Grèce, moins cher que l'Espagne, moins cher que le Portugal.
Et ça va continuer ?
Depuis un an, nous sommes dans une situation qui a radicalement changé. Désormais, la France emprunte plus cher que l'Allemagne, mais plus cher que l'Espagne, plus cher que le Portugal, plus cher que la Grèce, et au même niveau, et certains jours, plus cher que l'Italie.
Et ça va continuer ?
Ben, si la situation ne se stabilise pas, ça va continuer, et ça va se détériorer avec des conséquences qui pourraient devenir plus lourdes que celles qu'elles n'ont été jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un stock de dette, même si vous empruntez à taux fixe, vous renouvelez votre stock de dette. On a un stock de dette souveraine où on a emprunté pendant longtemps à 0 ou 1%, mais on va bientôt se retrouver dans la noria avec des renouvellements de maturité à 3%. Donc là, l'impact va être très significatif. Donc, le besoin de traiter de réduire cette charge de la dette qui peut nous asphyxier, on n'aura pas, contrairement à ce que certains disent, de problèmes de liquidité ou de problèmes de solvabilité. On n'aura pas de FMI à Paris. Non. Ce qu'on peut avoir, c'est une lente asphyxie de notre capacité à prendre des décisions.
Et est-ce que les investisseurs vous parlent ? Est-ce que la France plongée dans cette incertitude, elle peut devenir le nouveau paria de la zone euro ? C'est-à-dire l'endroit où on n'a pas envie d'investir. Et est-ce que les investisseurs, ils ont des lignes rouges ? Là, en ce moment, on est en train de parler de suspension de la réforme des retraites, d'impôt sur les ultra-riches. Ils regardent ça ou pas du tout ?
Alors, plusieurs choses. Les investisseurs regardent deux choses. Les grosses masses et comment font les autres quand ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Les grosses masses, c'est effectivement les retraites. Vous avez 1 700 milliards, à peu près 1 700 milliards de dépenses publiques. À peu près la moitié, 850 milliards, c'est de la dépense sociale, des transferts sociaux, de la santé. À peu près la moitié de cette moitié, 470 milliards, c'est le coût public des retraites. Donc les investisseurs regardent les très gros sujets. Un jour, un investisseur international d'endette m'a dit « Moi, je ne regarde que ça. Tous vos sujets à 1, 2, 3, 4, 5 milliards, c'est des pièces jaunes pour moi. » Parce que le vrai sujet, c'est 470 milliards de retraites.
Mais ils se fichent qu'on travaille plus ou moins longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit financé.
Attendez. Deuxième chose qu'ils regardent, c'est comment on fait les pays confrontés au même problème que nous. Vous savez, il y a 15 ans, il y avait un concept qui s'appelait les PIGS. Portugal, Italie, Grèce, S pour Espagne en anglais. Ces pays-là étaient les parias. Que sont-ils devenus 15 ans après ? Tous ces pays réduisent massivement leurs dettes. Trois de ces pays sont en excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire, pour parler en langage courant, sont des gens qui collectent plus d'impôts qu'ils ne font de dépenses publiques avant de payer les intérêts de la dette. Deux de ces pays sont en excédent budgétaire total, le Portugal et la Grèce, depuis 4 ans pour le Portugal, 2 ans pour la Grèce. Et donc, l'Espagne et l'Italie, qui sont un peu plus en retard...
Mais comment ont-ils fait, alors ?
C'est très intéressant. Et c'est ça que regarde le reste du monde, et notamment les investisseurs. Ils ont tous 3 ou 4 choses qu'ils ont faites de la même manière. La retraite est passée à 65, puis 67 ans. La TVA a dépassé 20%. Les dépenses publiques ont été réduites. Vous avez 300 communes au Portugal et 300 communes en Grèce. Et les dépenses de santé se sont concentrées sur ce qui n'est pas de la dépense de confort. Et vous avez eu un effort pour allonger la durée du travail, la quantité de travail pour augmenter la croissance. Ces pays ont fait cela.
Et vous, je le rappelle, vous investissez justement, vous tentez d'acheter la bourse à Athènes.
Au Portugal, en Grèce, en Italie, etc.
Parce que vous les trouvez plus compétitifs, parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. C'est là-bas.
Dans ces pays, ces programmes d'ajustement ont été faits par des gouvernements de gauche puis de droite, ou de droite puis de gauche, un consensus national s'est constitué pour dire plus jamais la dérive des déficits, plus jamais le traumatisme des ajustements de la dette. Une génération est ruinée quand on retarde ce redressement. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est soit le redressement choisi maintenant, soit l'austérité subie plus tard.
Ils vous disent quoi puisque vous faites le tour d'Europe régulièrement, quand ils nous regardent maintenant ces pics dont vous parlez ?
Ils sont très inquiets. D'abord, ils nous disent, j'ai vu le ministre portugais, à qui j'ai déjeuné il y a quelques jours, il m'a dit, moi je suis le P de pigs. Le grec qui est en excédent budgétaire, il me dit, moi je suis le G de pigs.
Et pigs, ça veut dire cochon en anglais.
Et donc, ils sont extrêmement inquiets, avec beaucoup de bienveillance. Vous savez, si la France, qui porte une partie de l'ambition européenne, est très affaiblie, c'est un problème pas seulement pour la France, mais pour le reste de l'Europe. Ils ne comprennent pas pourquoi nous vivons dans une île. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons des difficultés à faire ce qu'eux ont fait, alors qu'on est confronté à peu près aux mêmes équilibres et au même nombre. On a 115% de dette sur PIB. On est dans des niveaux qui sont assez voisins de là où étaient ces pays-là au moment de la grande crise financière. Donc, c'est la spécificité qu'on cultive qui les gêne. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à faire des choses qu'on a faites dans le passé. En 1958 avec Rueff Pinet, en 1983 avec le tournant de la rigueur, en 1997 quand on a voulu se qualifier à l'euro, on a fait des efforts d'ajustement.
Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext, merci d'avoir accepté l'invitation dans N'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Madame Vieux-Boulot. Alors Emma, elle a 27 ans, elle voudrait passer son permis voiture, on va dire ça comme ça, pour aller travailler. Mais c'est cher, nous écrit-elle, peut-elle entièrement le financer via son compte personnel de formation ?
Vous n'êtes pas seule, Emma, à vouloir payer votre permis grâce au CPF. La conduite arrive en tête des formations demandées. En 2023, plus de 300 000 personnes ont utilisé leur compte pour passer le code et la pratique. 264 millions d'euros ont été mobilisés pour ça, c'est-à-dire 14% du total des fonds. Depuis la création du dispositif, les formations à la conduite sont montées en flèche. Alors pour éviter que les finances ne dérapent, le ministère du Travail a durci les conditions. Depuis 2024, le CPF peut être mobilisé uniquement pour un premier permis. Si vous avez déjà un permis moto, Emma, vous ne pourrez pas financer un permis voiture et inversement. En revanche, posséder l'un ou l'autre ne vous empêche pas d'utiliser le CPF pour apprendre à manœuvrer un semi-remorque ou un bus. On entre là dans les permis du groupe Lourd. L'administration rappelle que ces fonds sont conditionnés à la réalisation d'un projet professionnel ou pour sécuriser un parcours, ce qui n'est pas difficile à justifier. Savoir conduire reste un passeport indispensable pour obtenir certains boulots ou tout simplement pour aller au boulot. Selon France Travail, un quart des demandeurs d'emploi rencontrent des difficultés de mobilité.
Mais Sandrine, vous n'avez pas encore dit à Emma ce qui l'intéresse. Est-ce que son permis peut lui coûter 0 euro ?
Et ça dépend évidemment de ce qu'il y a sur le CPF. Je rappelle que tous les actifs y ont droit et qu'il est alimenté de 500 euros par an, dans la limite de 5000 euros. Un permis B coûte autour de 2000 euros en moyenne, pour une trentaine d'heures. Il ne faut pas trop le rater trop de fois. Ouais. Les frais d'inscription à l'auto-école, une trentaine d'euros environ, ne sont pas pris en compte. Il faut savoir aussi que depuis 2024, un reste à charge de 100 euros est à payer pour toute formation effectuée dans le cadre du CPF, excepté pour les chômeurs. Mais à part ça, si le CPF est bien garni, la facture s'approche de zéro et c'est pas mal pour les jeunes. La moitié des personnes qui puisent dans leur compte pour apprendre à conduire ont moins de 30 ans. Je préfère vous prévenir, Emma, une fois le permis financé, c'est une autre bataille qui commence. Il faut attendre longtemps, 3 mois en moyenne, avant de décrocher une date d'examen. Les syndicats d'auto-école appellent à des mobilisations massives. Ils réclament notamment 150 inspecteurs supplémentaires. Avec 16% d'inscriptions en plus en 6 ans, les professionnels ne suivent plus. Ils veulent que des moyens soient prévus dans le prochain projet de loi de finances pour 2026. Ça tombe bien. Il paraît qu'un budget doit être présenté la semaine prochaine.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.